Dans le livre du Deutéronome, on vient de lire un verset qui enseigne combien on doit bénir nos enfants. Là, on va lire un verset. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Tout un enseignement sur l'importance de veiller, de bien écouter. C'est souvent dit ça, veillez sur vous, veillez sur votre âme, veillez sur les autres. Est-ce qu'il faut veiller les uns sur les autres? Eh ouais, il faut veiller. Regardez ce verset dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, verset 9. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, comme disait Jérôme tout à l'heure, tous les dimanches. » C'est ça qui nous a lu dans Luc? Non. « Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Avant d'expliquer ce verset, mes frères et sœurs, hier en priant, j'ai préparé tout mon sermon sur ce verset. Mais hier, j'étais pressé dans mon cœur, vraiment pressé, par rapport à ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Je ne parle pas des oreilles physiques, tout le monde entend les sons. Je parle des oreilles spirituelles. Et vous savez que dans la parole de Dieu, cela revient souvent, dans chaque lettre aux églises, que celui qui a des oreilles entende. Les gens, ils entendent un sermon, ils sont capables de l'analyser, ils sont capables même d'expliquer s'il est bien, parce qu'il est cohérent, etc. Vous savez, on appelle ça dans les églises protestantes l'art oratoire. Alors ça, c'est la façon dont les pasteurs se sont appliqués à prêcher. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui est utile, c'est d'entendre vraiment ce que Dieu a à nous dire. Parce que nous le savons par les prophéties, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Et nous le vérifions, hélas. Lorsque nous nous entretenons avec certaines personnes, nous vérifions bien, avec beaucoup de tristesse, que des chrétiens ne sont que des croyants de nom. Et en parlant de veiller, justement, lorsque Dieu parle au pasteur, il demande aux chrétiens, il dit, mais obéissez à vos conducteurs, bien sûr, si je vous demande quelque chose qui n'est pas biblique, ne le faites pas. Si je vous dis, allez vous jeter dans la Garonne, est-ce que vous allez le faire? Quand il est dit, obéissez à vos conducteurs, ça sous-entend, bien entendu, qu'il faut obéir à ceux que ce qu'ils disent soit biblique. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Et nous ne nous rendons pas compte, tellement le niveau spirituel a baissé dans les églises, tellement le niveau spirituel ne veut plus rien dire, mis à part de l'ambiance, que nous ne nous rendons pas compte que les pasteurs, nous allons rendre compte à Dieu. Et tout cela est sérieux, d'autant plus que si nous ne veillons pas sur les âmes, Dieu par Ézéchiel dit que nous perdons les âmes. Est-ce que c'est écrit que les pasteurs perdent les âmes? Oui, des pasteurs peuvent perdre les âmes. Et je peux vous dire que pour le jour, mes frères, vous allez passer devant Dieu, parce que je parle pour ceux qui m'écoutent sur Internet, nous allons regretter de ne pas avoir pris à cœur ces choses. Surtout que ceux qui ne sont pas prêts. Lorsque le Seigneur va prendre l'Église, vous croyez que Jésus revient bientôt? Vous croyez que l'Église pourrait être enlevée dans peu de temps? Que va-t-il arriver? C'est mon introduction. Pour que vous compreniez le verset que nous avons lu. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne seront pas enlevés? Il faut que je le redise, je l'ai à cœur, je n'ai pas envie humainement parce que je l'ai déjà dit dernièrement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au son de la trompette, l'Église va être enlevée. Juste avant, les morts en Christ vont ressusciter. Ça fait rire peut-être quelqu'un. Mais riez maintenant, parce qu'après, vous ne rirez pas. C'est quelque chose de miraculeux, de prodigieux. Au son de la trompette, Dieu fera que les morts en Christ ressusciteront. Et dans un clin d'œil, les vivants chrétiens seront enlevés. Les croyants, les vierges sages, et ceux qui ne seront pas enlevés connaîtront la colère de Dieu. Car la colère de Dieu ne peut pas venir tant que la grâce existe. Vous me suivez? La colère de Dieu viendra après que l'Église sera enlevée, que le Saint-Esprit partira avec l'Église, et la colère de Dieu viendra sur la terre, et des moments terribles viendront. Mais qu'adviendra-t-il de toutes les vierges folles, ou de tous les gens qui savaient pertinemment qu'ils auraient dû se sanctifier, mais qu'ils ne l'ont pas fait? Ils n'ont pas été sérieux, ils allaient à l'Église, ils étaient capables, je l'ai dit, d'analyser un bon sermon, mais ils n'étaient même pas capables de savoir s'ils étaient prêts. Alors quand je dis « ils n'étaient pas capables », ce n'est pas du tout du mépris, c'est que c'est comme ça. Quelqu'un qui est aveugle, ben, il ne voit pas. Quelqu'un qui est sourd, il n'entend pas, c'est pas de la palissade, c'est sérieux. Et quand on lit, par exemple, on peut lire, regardez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 6. Vous savez, ce sont des choses, des fois on n'ose pas en parler, je sais pas, on n'ose pas l'expliquer, c'est vrai que c'est compliqué, il y a des gens qui viennent pour la première fois, qui n'ont jamais ouvert la Bible, mais ça s'adresse à tous les gens. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la Bible dans l'Apocalypse pour la première fois et se convertir? Ben oui, c'est arrivé. Moi, le pasteur qui m'a formé, il s'est converti en lisant Apocalypse chapitre 3. Voilà. Parce que son père lui faisait faire une dictée, c'était M. Bertalon. Et je lui avais demandé, comment vous vous êtes donné au Seigneur? Et bien, mon père me faisait faire des dictées avec les lettres de la Bible. Et quand j'ai lu l'Apocalypse chapitre 3, quand j'ai écrit, j'ai pleuré, j'ai compris vraiment, et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vous voyez? Et il s'est converti en lisant l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6... Verset 9. Vous savez, c'est mon introduction est un peu longue, vous inquiétez pas, je raccourcirai le développement. Mais je pense quand même que beaucoup de chrétiens doivent entendre ces choses. Écoutez, mes frères et sœurs. Il y a quelqu'un dans l'église, je le sens, qui n'écoute pas. Il est habitué, il n'écoute pas. Et vous vous mettez en danger. Écoutez, mes frères et sœurs. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Un peu plus loin, au chapitre 7, vous avez quelque chose de spécial qui se passe. Jean, vous savez que Jean, bien sûr, il a vu l'enlèvement de l'Église, et là, il se retrouve dans une situation, regardez, Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Juste une parenthèse. Dans le ciel, il y a des gens qui auront des robes blanches, il y a des gens qui auront des robes de fin lin éclatant, il y a des gens qui auront des robes de fin lin éclatant pures, brodées. On le voit ça. Bon, c'est peut-être pas utile, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y aura certaines choses, il y aura des différences dans le ciel. Mais ceux-là, quand même, ils ont des robes blanches. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards et les quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange !» La gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, il parle à l'apôtre Jean, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Vous comprenez? L'Église a été enlevée. Et Jean, tout d'un coup, il voit sur la terre des gens, des chrétiens. Comment cela se fait? C'est ça que ça veut dire. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura beaucoup de pleurs pour les chrétiens qui ne sont pas prêts. Et cette semaine, j'étais poussé à lire ce texte. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Car croyez-moi, les gens, les chrétiens, qui ne seront pas prêts, ils vont pleurer. Et ces choses, elles ont été écrites non pas pour nous effrayer, non pas pour nous inquiéter. Ces choses, elles ont été écrites pour nous aider. Il n'y a que Jésus qui dit dans le livre de l'Apocalypse, « Heureux celui qui lit, celui qui lit, qui écoute et qui garde les paroles de ce livre. » Il y a une joie à comprendre ces choses, oui ou non? Il y a une véritable grâce de comprendre que ce sont des choses qui vont arriver. Et les gens sont dans une... Les gens ne réalisent pas ce qui va se passer. Les gens, certains, c'est un peu virtuel. Les gens, vous voyez l'enlèvement de l'église? Oui, l'enlèvement de l'église, monsieur Hugo, c'est... les cieux, le pays des délices, tout ça, c'est un peu virtuel pour moi, j'ai du mal à... Mais moi aussi, mais je sais que c'est vrai. Vous le croyez que c'est vrai, tout ça? Quelqu'un un jour est venu, il avait été guéri d'une dépression et d'un cancer. Et puis il revient un mois après, il me dit, monsieur Gou, je peux vous parler? Alors, il n'y a personne, on peut aller dans une pièce. Ce que vous dites, ce que vous prêchez, vous le croyez vraiment? Il dit, comment ça? Non mais... C'est psychologique, tout ça, il me dit. Ah, je dis non. Et le gars, quand même, 3-4 ans après, s'est converti, vous voyez. Mais lui croyait que c'était psychologique, la guérison. La guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Rien ne peut se faire sans son esprit. Et si ce matin, quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, c'est qu'il aura ouvert son cœur et le Saint-Esprit aura pu le bénir. Mais si nous prenons le temps de lire, regardez, Apocalypse 20, c'est quand même des choses... Je ne sais pas si les gens le comprennent. Je sais, vous savez, après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir une pseudo-période de paix. Parce que l'enlèvement de l'Église va faciliter cette fameuse guerre de Gog et de Magog. Et je peux vous dire qu'on en prend le chemin. Croyez-moi. Ceux qui ne le voient pas, vraiment ne veulent pas le voir. Apocalypse 20, verset 4. « Je vis des trônes. À ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes... de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque de leur front, sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, Apocalypse 7, verset 9, regardez. Je ne sais pas si c'est un livre que vous lisez, peut-être que vous ne le comprenez pas. Mais plus vous le lirez, non, ce n'est pas 7, verset 9, c'est... Apocalypse 14, verset 9. Regardez. Regardez ce qui va se passer. Il va y avoir... Parce qu'aujourd'hui, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? Être évangélique? Baptiste? Catholique? Qu'est-ce qu'il faut être pour aller au ciel? Oui. Il faut se repentir et se convertir. Apocalypse 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Après l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs, il va y avoir des temps terribles. Et ça, Dieu veut nous l'épargner. Le Seigneur, il est bien dit que nous sommes épargnés de la colère. Il nous a sauvés de la colère. Nous étions des enfants de colère, mais dans sa miséricorde, Dieu nous a sauvés. Il y a des dizaines et des dizaines de textes qui nous prouvent que les croyants ne doivent pas connaître la colère de Dieu. Les croyants, ils ne doivent connaître que la grâce de Dieu. Noé n'a pas connu le déluge. Pourquoi? Parce qu'il était dans le refuge, etc. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'être prêt, c'est de veiller attentivement sur son âme. Vous avez vu les âmes, il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Oui ou non? Il y a des gens, ils ne savent même pas. Ils ont un corps et ils s'en occupent. Dès qu'il y a un petit bobo, oh, vite, 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 un check-up. Vite, 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 le toubib. Vite, 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 une radio. Ils ont raison, c'est pas du tout du mépris. Mais ils savent qu'ils ont un corps. Nous aussi, d'ailleurs, on le sait. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous avons tous une âme qui ne nous appartient pas? Notre corps nous appartient, votre voiture vous appartient. Si vous avez une Porsche, par exemple, vous dites, monsieur Gauche, je vous la donne après le culte. Vous pouvez donner votre Porsche, mais faites-le, ça, sans culpabilité. Faites-le, gentiment. Ou une Ferrari, c'est pas grave. Elle vous appartient, votre maison vous appartient. Béni soit Dieu pour tout ce qui nous appartient. Si Dieu nous l'a donné, ben c'est bien. Mais notre âme, elle ne nous appartient pas. Dieu peut la reprendre quand il veut. Il y a plein de textes dans la Bible, les évangiles sont remplis de textes qui nous montrent que notre âme ne nous appartient pas et que Dieu peut nous la redemander. Et que de toute façon, un jour, notre âme passera devant Dieu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous faites de ce verset que nous venons de lire en introduction. Veille attentivement sur ton âme. Vous viendriez pour la première fois, ou vous êtes là depuis 70 ans, c'est la même chose, cette parole s'adresse à tous les hommes. Des fois, il y a des versets où on se dit, tiens, ça c'est pour les anciens, ça c'est pour les vieux chrétiens qui peuvent manger de la nourriture solide, etc. Mais il y a des textes qui nous prouvent, ils sont attribués à tous les hommes. Veille attentivement sur ton âme, même si vous ne croyez pas que vous êtes un athée, que vous êtes rentré dans la maison de Dieu ce matin, laissez-moi vous dire que Dieu peut vous dire cette parole d'une façon sérieuse, solennelle, veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie. Ce sont des choses sérieuses. Pourquoi tant de chrétiens sont faibles ? Tant de chrétiens sont là, ils ont peur. Alors moi je ne veux pas utiliser ces paroles pour culpabiliser. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que nous croyions vraiment que Dieu, il est capable de restaurer une âme, quelle qu'elle soit. Veille sur ton âme. Beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux les paroles quand Jésus dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prenez mes instructions, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Mes frères et sœurs, un chrétien qui ouvre le Saint-Livre et qui fait ce que nous sommes en train de faire d'une manière vraie, le Seigneur va le bénir. Il va parler à son âme. On doit restaurer son âme. Veille sur ton âme. Comment seraient nos corps si nous ne mangions qu'un jour sur trois ou sur quatre? Essayez. Que deviendraient nos corps? Mais ils dépériraient, ils deviendraient malades, ils attraperaient tous les virus qui passent, etc. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée, ça peut arriver des fois d'avoir un jour de jeûne, etc. Parce qu'on a besoin, parce que c'est écrit, ça c'est autre chose. Mais nous savons tous très bien que si nous ne veillions pas sur nos corps, nous savons très bien dans quel état nos corps seraient dans quelques jours ou dans quelques semaines. Que celui qui a des oreilles entende. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vous le dis avec sérieux, parce que moi je suis inquiet de voir tant et tant de chrétiens qui sont aveugles. À la rentrée, priez pour moi s'il vous plaît dans vos cultes personnels, je vais faire un culte sur l'évangile de l'illusion. Les gens qui s'illusionnent, qui croient qu'ils vont bien, et qui sont complètement perdus. Je parle des chrétiens. Ça sera pour la rentrée. Priez pour cela. Je sais qu'il me faut le faire. Des croyants ne se rendent pas compte qu'imperceptiblement, tout doucement, leur communion avec Dieu devient de plus en plus petite. Leur prière devient de plus en plus étroite. Ça devient une corvée. On lit moins. On dit qu'on n'a pas le temps. C'est pas vrai. Quand on aime quelqu'un, moi, cette semaine, notre petite fille, elle nous a écrit. Elle nous a écrit « Je me languille de vous voir ». Elle nous a écrit tout un mot. Vous savez, je les relis trois ou quatre fois. Quand nos petits-enfants nous écrivent, vous aimez vos petits-enfants? Il y a des fautes partout. Mais quelle grâce! Ça part de travers. Mais ces courriers, je ne les jetterai pas pour rien au monde. Pourquoi? Parce qu'on aime nos enfants. Ma fille Maëva, je le dis parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ce matin, je suis rentré dans mon bureau, regardez mes prédications, des mots partout. Elle est là, Maëva? Mais ça fait plaisir, donc. Et je dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit deux ou trois trucs. Quand quelqu'un nous aime, nous écrit, on veut savoir ce qu'il a dit. Moi, il me semble, mes frères et sœurs, au-delà de l'affection humaine, que la lettre d'adieu, on devrait la lire avec cœur. Et que si notre communion s'étiole, c'est parce qu'on n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Et on va le payer cher. Mes frères et sœurs, moi je vous le dis devant Dieu. Dieu m'est témoin que je vous le dis avec cœur. Où en sommes-nous de notre âme? Dans quel état se trouve notre âme? Est-ce que nous sommes dans le repos? Est-ce que je... Et on va le lire, ce psaume que l'on connaît tous par cœur. Quel est le psaume que l'on connaît par cœur? Le psaume 23. On le connaît par cœur. C'est un psaume. Vous le connaissez, ce psaume? Plein le connaissent par cœur, vraiment. Moi, je peux vous le réciter par cœur. Mes frères et sœurs, c'est... Mais le psaume 23, il tourne autour d'une vérité énorme. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de regarder. Parce qu'une âme, elle doit être nourrie comme le corps. Psaume 23, lisons-le comme si nous le lisions pour la première fois. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mes frères et sœurs, qui est l'homme, la femme, qui peut dire, écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez bien, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige dans les verts pâturages. Dans la vallée, vous rendez compte, dans la vallée de l'ombre de la... Vous le croyez, ça? Je ne crains aucun mal. Toutes ces, mais ces paroles, elles ne sont possibles si on vit le verset 3. Ce n'est pas possible autrement, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 3? Il restaure mon âme. Si le Seigneur, si mon âme n'est pas restaurée, mais tout le reste ne suit pas. Comme un homme qui ne se nourrit pas de la parole, qui ne se nourrit pas de grâce, peut-il dire il me conduit dans les sentiers de la justice. Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, ou qui ne la lit presque pas, ou qui la lit presque, ça ne sert à rien plutôt que de tranquilliser sa conscience. Il faut que je lise tous les jours un peu parce que moi je suis... Non, c'est ça l'illusion. Je me fais croire que je suis spirituel parce que je lis un petit peu pour lire, je prie un petit peu pour prier, je viens à l'église, ça me met de... Je dois être du côté de Dieu. Non, 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 non. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on fait ces choses qu'on est obéi. Parce qu'on ne peut pas... Soyons honnêtes jusqu'au bout. Un chrétien ne peut pas dire le lundi ou le dimanche, tiens, le dimanche, oh, le Seigneur restaure mon âme. Et le lundi, oh, mon âme, elle est délabrée. Et mardi, oh, Seigneur restaure mon âme le mardi. Et le vendredi, oh, mon âme, elle est détruite. Écoutez, c'est l'un ou l'autre. Ou notre âme, elle est restaurée, ou notre âme, elle se détériore. Et il y a besoin d'être honnête. Mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Je rendrai compte pour cette prédication. Si vous venez pour la première fois et que vous écoutiez cette seule prédication de votre vie, moi j'ai pas envie que vous disiez, mais j'ai été dans... Vous comprenez, c'est ce que je dis au pasteur. J'ai été dans une église, j'ai écouté le message, le pasteur il a raconté n'importe quoi, j'ai rien compris. Vous le comprenez ce que je vous dis. Vous devez veiller sur votre âme, si vous ne veillez pas sur votre âme, ça va mal se passer. Et nous avons un Dieu qui restaure les âmes. David, je ne sais pas à quoi pensait David quand il a écrit le psaume 23. Où était-il? Était-il berger? Était-il roi? J'en sais rien, on ne peut pas le dire. À quoi pensait-il? Pensait-il à tous ces moments difficiles qu'il a traversés? Est-ce que David a traversé des moments difficiles? Oui, de grands moments difficiles, de moments terribles. Lisez les psaumes et je peux vous dire que David a traversé des moments sévères, où son âme a été malade, où son âme a été angoissée. Lisez avec une concordance tous les textes qui parlent de l'âme, combien une âme peut être affamée, combien une âme peut être étriquée, combien une âme peut pleurer. Prenez une concordance et vous n'en finirez pas de voir toutes les fois où l'âme de quelqu'un, on va y venir tout à l'heure. Mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que votre âme, c'est comme votre corps? Comment soignez-vous votre âme? Est-ce que votre âme a besoin d'être restaurée? Quand est-ce qu'une âme a besoin d'être restaurée? C'est peut-être ça que je devrais bien expliquer. quand est-ce qu'une âme a besoin d'être restaurée? Ça vous est déjà arrivé dans la rue ou en voiture de passer devant des maisons et que vous avez dit « Ouh, cette maison, elle a besoin d'être restaurée ». Ça vous est déjà arrivé de passer devant une maison et de dire « Ouh, cette maison, elle ne va pas bien. Il y aurait besoin de quelques maçons là qui viennent. » Vous l'avez déjà vu ça? Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que leur âme est dans le même état. Mais mes frères et sœurs, d'abord, premièrement, est-ce que vous réalisez la valeur d'une âme? Pour le réaliser, la seule façon, c'est de regarder les questions que Jésus a posées. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a gagné le monde? Non, je ne pense pas. Peut-être Alexandre le Grand, un peu. Et quand on voit ce qu'il a dit après, je peux vous dire que ça ne sert à rien. Même. Personne n'a jamais gagné le monde. Mais Jésus pose la question pour expliquer que même si un homme, vous voyez, arrivait à gagner tout le monde, s'il perdait son âme, il n'a rien gagné du tout. Parce que notre âme est éternelle. Et il faut que nous en prenions conscience. Et je sais, mes frères et sœurs, et je le dis avec beaucoup de tristesse, parce que je sais que si les chrétiens dans les églises du monde entier ne prennent pas soin de leur âme, c'est parce que nous, les pasteurs, on n'a pas fait notre travail pastoral. Et croyez bien qu'il n'y a aucun reproche. Aucun reproche dans mes propos. Je sais que c'est notre faute. Nous n'avons pas veillé sur les âmes. Nous ne savons même pas comment édifier une âme. C'est à notre honte. C'est pour ça que je voudrais que vous compreniez bien que dans mes propos, il n'y a pas du tout de culpabilisation. Je sais que la faute, elle sera sur les pasteurs. Quand vous voyez dans Jérémie des textes, ou quand il est dit que c'est à cause des prophètes. Écoutez bien ce verset. Vous voyez, ça fait, en tant que pasteur, ça fait peur. C'est à cause des prophètes que l'iniquité s'est répandue dans le pays. Mais il y a de quoi pleurer à cause des prophètes, pas à cause des impies, à cause des pasteurs, que l'impiété s'est répandue. Ça vous montre combien nous devrions faire archi attention, et nous devons absolument dire mais comment faire, puisque tu dis Seigneur, avec amour, avec sérieux, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Eh bien, il faut que je le fasse. Où j'en suis? Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a toutes sortes de jours. Il y a des jours compliqués, non? Est-ce qu'il y a des jours compliqués? Est-ce qu'il y a des jours mauvais? Est-ce qu'il y a des jours d'échec? Oui, de la même manière, il y a des jours faciles. Est-ce que des fois, il n'y a pas des jours faciles? Oui, il y a des jours de vacances, il y a des jours de travail, il y a des jours d'échec, il y a des jours de réussite, il y a des jours où on est vraiment béni, il y a des jours où on est éprouvé, etc. On pourrait multiplier la liste, c'est d'ailleurs intéressant. Mais Dieu nous dit, veille sur ton âme quand tu vas bien, quand tu vas mal, veille sur ton âme tous les jours de ta vie. En plus, mes frères et sœurs, vous le savez, comment le Saint-Esprit nous présente le Seigneur Jésus? On le lit? Regardez quand même. Dans Ésaïe, un peu plus loin. Quand même, quand on est-ce qu'on connaît Jésus? Beaucoup de gens n'arrivent pas à sortir de la détresse parce qu'ils ne le connaissent, ils croient en Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Regardez comment le Saint-Esprit nous présente Jésus. Vous connaissez ce verset, Ésaïe 58. Regardez Ésaïe, on va faire deux ou trois lectures. Ésaïe 58, verset 12. Quand même. Je ne sais pas si vous le croyez. Parce qu'on parle de Jésus, le beau nom de Jésus. Tout à l'heure, quelqu'un dit, après, c'est vrai, c'est le plus beau nom. Il n'y a pas de nom plus beau que celui de Jésus. Bon, mais c'est clair. Mais pourquoi? Mais à cause de ce qu'on va lire. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Qu'est-ce que ça fait du bien de lire ça? Non, mais je ne sais pas. Tu relèveras des fondements antiques. Oui, même si votre misère, elle date depuis longtemps, très longtemps, eh bien, Dieu, ça le gêne pas. Et comment on appellera le Seigneur? On l'appellera réparateur des brèches. Ben, vous pouvez dire Alléluia. Vraiment, dans votre cœur, Seigneur, je ne me sens pas jugé. Ma maison, elle est délabrée. Ma maison, elle est complètement détruite. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu relèves des fondements antiques. Moi, je dis merci, Seigneur. Oui. Mais ça n'annule pas le fait qu'il faut participer. Dieu ne va pas restaurer mon âme si je ne participe pas. Ne me dites pas à la fin du culte, « Oh, Monsieur Gault, merci pour votre prédication. » Si vous n'avez pas l'intention de participer à la restauration de votre maison, si vous n'avez pas l'intention de participer à la restauration de votre âme, il faut dire « je vais le faire. Mon âme, elle n'est pas prête, mon âme. » Elle n'est pas prête. Je veux être droit devant Dieu. Mais quand je lis que Dieu est le réparateur des brèches, ça veut dire que Dieu peut tout faire. Il peut tout réparer. Tout. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Il restaure mon âme. Mais il ne faut pas que ça soit du j'allais dire du pipeau. On peut le dire, ça, non? Non? Est-ce qu'on peut le dire? Bon, il ne faut pas que ça soit de l'hypocrisie et de la comédie. Ouais, ça va mieux. Il faut que ça soit vrai. Il faut que j'y mette mon cœur. Il y a des gens, ils sont... Mais moi, je le sais, vous savez, j'en ai honte. Mais je vous le redis, je sais que ça vient partie de nous. Je le sais. Si dans toutes les églises, on avait prêché la croix, croyez-moi que les églises seraient remplies de vrais disciples. Et quand David, je ne sais pas s'il était assis sur une pierre en train de regarder, en train de penser à une épreuve, il restaure mon âme. Il savait ce qu'il disait. Il croyait, il avait lu le Deutéronome, croyez-moi. Il l'avait lu, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Ce n'est pas possible qu'il ne l'ait pas lu. Quand on connaît cet homme, ce qu'il a lu, ce qu'il a écrit, et être honnête. Dire, mais ce matin, je suis dans la maison du Seigneur. Le Seigneur, il a restauré l'âme de David, mais il va de soi qu'il restaurera la mienne. Est-ce que vous croyez que si vous y mettez votre cœur, Dieu y mettra le sien? Est-ce que vous croyez que si vous dites, Seigneur, on va y aller? On y va, on recommence, on va travailler à la restauration de la maison. Regardez un peu plus, c'est en avant, je crois, oui. Regardez Esaïe 51, regardez si c'est pas beau. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, monsieur Gou, moi ça fait trop longtemps que je suis détruit, monsieur Gou, mon âme, il y a trop longtemps qu'elle est détruite, je me suis trop moqué de Dieu. Je me suis trop éloigné de Dieu. J'étais insensible. Oui, il y a des gens qui sont très loin de Dieu, des chrétiens qui sont très loin de Dieu. Regardez Esaïe 51. Regarde, franchement. Je l'ai surligné. Esaïe 51, verset 3. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de... Comment vous avez dans votre Bible? De toutes ses ruines. Alléluia. Quel privilège. Il a payé, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus a fait sur le bois de la croix? On le chante, on prend le pain, on prend le vin, on chante des cantiques de victoire. Mais est-ce que nous comprenons bien que Jésus, il veut restaurer notre âme, il peut restaurer notre âme parce qu'il a payé? Comment on va réagir? Regardez, je vous parlais du psaume 107. Le psaume 107, je vous encourage, je l'ai souvent dit, mais je vous encourage à le méditer d'une manière spirituelle, vraiment solennelle. Regardez dans ce psaume ce qui se passe. Pareil, là, il y a plein de textes où les âmes ne vont pas bien. Mais notez, mettez un petit papier dans la Bible. Arrêtez-vous cette semaine sur le psaume 107. Regardez, c'est le peuple de Dieu. Psaume 107, verset 4. Psaume 107, verset 4. Ils erraient dans le désert. Vous voyez, c'est impressionnant comme ça revient, ça. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Vous voyez, les gens qui errent toujours, les chrétiens qui sont tout le temps en train d'errer. Ils souffraient de la faim et de la soif. Comment était leur âme? Leur âme languissante, vous voyez. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Vous voyez au verset 9, il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Vous serez surpris si vous prenez une concordance, je vous dis, et vous prenez le mot âme. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ça fait réfléchir quand même. Il parle aux chrétiens, des croyants, hein. Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Vous voyez, on peut dire amen à une prédication et en fin de compte se révolter parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Cette prédication, c'est un conseil, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en ferez? Ils humilient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Et alléluia, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Lisez ce psaume et vous allez voir plusieurs fois cette affaire-là. Il y a une participation, ils y ont participé, ils étaient dans la détresse, dans les ténèbres, dans la souffrance, etc. Mais ils ont crié à Dieu. Est-ce que franchement, on peut se mettre dans sa chambre et dire, Seigneur, ça ne va pas, moi je ne veux pas vivre ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter de vivre la colère de Dieu. Il y a un chrétien là qui veut dire, moi ça m'est égal, moi vous savez, moi j'en ai vu d'autres. Il y a quelqu'un qui veut vivre la colère de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas pris à cœur ces choses. Veille attentivement sur ton âme. Gloire à Dieu. Dans le psaume 107, parce que je vois que le retourne, dans le psaume 107, il y a cette affaire, ils ne vont pas bien, leur âme est altérée, leur âme est affamée. etc. Mais regardez la conclusion. Je veux conclure avec cette... Comment ce psaume est écrit ? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Verset 8. Qui loue l'Éternel pour sa bonté ? Verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté ? Voyez, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vous voyez, les insensés, les illusionnés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Vous voyez, regardez, leur âme avait en horreur toute nourriture. C'est l'image des chrétiens qui n'acceptent plus la parole. Vous aimez la parole de Dieu ? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne supportent plus la sainte doctrine ? Il y a des chrétiens, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas la parole. Et je peux vous dire que ce n'est pas bon signe si vous n'aimez pas la parole. Si vous n'aimez pas lire, ce n'est pas bon signe. Et vous remarquez, ce psaume est construit d'une manière archi-intelligente. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a inspiré. Verset 21. Qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles. Verset 24. Cela vire les œuvres de l'Éternel. Verset 31, qui loue l'Éternel pour sa bonté. On va lire le dernier verset. Lisez-le solennellement. C'est une parole de Dieu. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Un chrétien qui est restauré, vous savez à quoi ça se reconnaît ? Il loue Dieu. Vraiment, il le loue. Souvent, on entend des « je ne peux pas rester la bouche fermée ». Qu'on le fasse à haute voix ou intérieure, moi, ça ne me gêne pas. Mais une chose est sûre, c'est quelqu'un qui retrouve la communion avec Dieu, qui dit « c'est vrai, mon temps de prière, il est. Je trouve du temps pour aller au cinéma, je trouve 2 heures pour aller au restaurant, j'ai trouvé 3 heures pour aller à l'anniversaire des enfants d'un ami, etc. etc. » Seigneur, pardon. Vous savez, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Mais il y a une prière que Dieu exauce. Il a pitié du misérable. Le misérable, c'est celui qui dit, c'est vrai. Je dis que je t'aime, je dis que tu vois mon cœur, tatati, tatata. Mais en vérité, ma communion avec toi, elle se résume à celle que j'ai avec certains de mes voisins. Bonjour, au revoir. Qu'est-ce que vous diriez d'un homme qui va voir sa mère une fois par mois ? Et qui lui dirait, maman, bonjour, tu sais, j'ai pas le temps, au revoir, j'espère que tu vas bien, mais il me faut passer ici, il me faut passer là, j'ai pas le temps. Je te comprends, mon fils. Mais avec Dieu, ça se passera pas pareil. Et je pense qu'on comprend nos enfants, etc. Mais mes frères et sœurs, quand la communion se résume à des miettes, soyons honnêtes, soyons vrais. C'est que notre âme a besoin d'être restaurée. Il est le réparateur des brèches. Il a pitié de nos ruines. On va terminer avec ce texte parce que c'est un de plus. Dans Ésaïe 61, vous savez, quand le Saint-Esprit résume tout le travail de Jésus-Christ, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les cœurs brisés, il promet aux prisonniers la délivrance. Vous connaissez ces textes, de consoler les affligés. Et regardez, une fois de plus, ça vous prouve que Dieu insiste. Ésaïe 61, verset 4. Moi, ce sont des versets qui me font monter les larmes. Parce que ça ne me décourage pas, je me dis, Dieu peut restaurer n'importe quelle ruine. Ésaïe 61, verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. » Gloire à Dieu. Seigneur, restaure mon âme, que je puisse être comme le fils de Ruth. Comment il s'appelait le fils de Ruth ? Obed. Le grand-père, c'était le pépé de David. Quand Ruth a accouché, je l'ai dit tout à l'heure quand on a présenté le petit, quand Ruth a accouché, c'est beau ça quand même. Ses amis lui ont dit, cet enfant restaurera ton âme. Et je crois, mais vraiment je le crois, parce que c'est vrai, si nous laissons le Saint-Esprit nous restaurer, à notre tour, nous pourrons restaurer les autres, faire du bien aux autres. Alléluia. Quelle belle l'Église quand... Elle est remplie de maçons, des ouvriers. Vous savez, il y a les ouvriers qualifiés, il y a les comment on appelle ça ? Je ne m'appelle plus. Il y a des numéros. Et il y a les OHQ, les ouvriers hautement qualifiés. Est-ce que ça vous va qu'un jour Dieu vous dise tu as été un ouvrier hautement qualifié? Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir des ouvriers hautement qualifiés? Des gens qui veulent dire je veux travailler à mon âme afin de restaurer les autres. C'est ça que Dieu veut. Mes frères et sœurs, veillons attentivement sur notre âme tous les jours. Parce que si nous ne veillons pas tous les jours, ça fait paraître légaliste. Un pasteur qui dirait, oui, il faut lire la Bible tous les jours. Non, ne la lisez pas. Si c'est à lire pour la lire, ça ne sert à rien. Mais quelqu'un qui aime Jésus, il veille sur son âme. Il veille. Et il va être sérieux. Il va la lire. Il va s'arrêter dans la voiture, il va méditer. Vous êtes d'accord avec ça? Vous croyez que la colère de Dieu, elle vient? Est-ce que vous le croyez? Elle vient bientôt, cette colère. Mais même si elle ne venait pas bientôt, je crois que ça vaut la peine de se préparer à le rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on termine par la prière et par un chant? Ce petit cœur qui dit « Je tends les mains vers le roi qui vient et je n'aurai pas d'autre Dieu. » On va prier. Fermons les yeux quelques instants. Je voudrais que, vous savez, entends mon cœur. On l'a chanté tout à l'heure. Alors, entends mon cœur. Est-ce qu'on peut se recueillir, s'il vous plaît? Arrêtez de fermer vos sacs. Est-ce qu'on peut se recueillir? On est devant Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut lui demander de l'aide? Est-ce que je sais que dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Vous vous rendez compte? Ce seraient les premiers, si Jésus revenait dans les secondes qui suivent, à dire, mais pourquoi il n'a pas insisté? Mais pourquoi il n'a pas insisté, monsieur, qu'on le connaît? Il aurait dû insister lourdement. Oui ou non? Les premiers qui ne seront pas pris hurleront contre les pasteurs. Ils diront, ils auraient pu nous prévenir quand même, ils le savaient. Et est-ce qu'on ne peut pas lui répondre là maintenant? Demander de l'aide, Seigneur, mais il faut que je participe à la restauration de ma maison spirituelle. Et s'il y a quelqu'un qui veut demander de l'aide au Seigneur? On reste recueilli, c'est entre nous et Dieu, ça ne regarde personne. Personne, ça c'est vraiment personnel. Si parfois on demande aux malades de venir parce qu'on prie tous ensemble, ça c'est bien. Mais s'il y a quelqu'un qui est assis à sa place, dans son, parce que Dieu regarde au cœur, il entend votre cœur. Quelqu'un qui dit, mais ça va pas, c'est vrai, je lis pas, je lis parce qu'il me faut lire. Ma maison, elle n'est pas bien ma maison. Ils relèveront d'antiques ruines. Alors je vais prier pour celui qui dans son cœur demande de l'aide. Parce que c'est ça aussi veiller sur l'âme. Je veux prier. Pour celui qui dans son cœur dit Seigneur aide-moi. Participez-y. Participez-y. Faites-vous violence. Et en plus nous verrons de nouveau la différence dans une église. Avec les gens restaurés. Nous qui voulons un réveil, croyez-moi ça commence par ça. Ça commence par l'obéissance à ce verset. Prions. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, tu as laissé dans ta parole tous les versets, toutes les paroles nécessaires pour que nos âmes soient prêtes pour le jour où tu reviendrais nous chercher. Nous te demandons ton aide, Seigneur, et je veux te prier vraiment pour tous ceux qui ont éteint leur lampe, pour tous ceux qui n'ont plus d'huile, pour tous ceux qui se sont refroidis, pour tous ceux qui ont pris à la légère tous les conseils du Très-Haut. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, nous voulons que tu parles aux hommes. Et ensemble, nous te prions pour que tu nous aides à restaurer notre maison. Tu vois ceux qui sont complètement détruits, tu vois ceux qui n'ont peut-être qu'une fenêtre à changer. Qu'importe, Seigneur, que toutes nos maisons soient restaurées. toutes nos âmes soient belles, rassasiées. Que nous puissions dire avec le roi David, oui, l'Éternel rassasie mon âme. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.